Merci à tous ceux qui ont travaillé sur le texte. Pas seulement ceux qui m'ont envoyé des choses, mais même ceux qui ne l'ont pas fait. Je sais qu'il y en a qui ont préparé ce texte et qui ne me l'ont pas envoyé, mais c'est très bien. Et merci à ceux qui l'ont envoyé parce qu'il y avait des trésors, c'était super. Il y aura quelques allusions en cours. Voilà, donc vous vous rappelez, pour ceux qui n'étaient pas là les autres dimanches, on va rapidement revoir. À la suite de la rencontre entre Saül et David, vous vous souvenez que David avait épargné la vie de Saül. Il avait eu une attitude extraordinaire et on s'en était servi aussi comme modèle pour régler un conflit. Je crois que c'est un modèle qu'on peut encore utiliser au XXIe siècle. L'homme n'a pas changé. Donc, c'est bon. C'est curieux d'ailleurs de penser qu'en plus de 3000 ans, on n'a pas changé. Le cœur est toujours le même. Bon. Et par contre, là, on va assister au problème inverse. Autant il était prêt à épargner la vie de Saül, autant il est prêt à liquider sauvagement toute une famille. Donc, c'est un texte assez intéressant de ce côté-là. Ça nous change. Et c'est ce que j'aime énormément dans la Bible. Vous savez, la plupart des livres qui décrivent la vie d'un héros, quel qu'il soit, que ce soit mythologique, religieux, tout ce que vous voulez, en général, on s'arrange pour donner ses bons côtés. Et pour dorer ça impeccable, et on leur met des auréoles, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et la Bible ne fait pas ça. Parce que la Bible est un livre de vérité. Et elle va dire les choses comme elles sont. Ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Ce qui est juste, ce qui est injuste, etc. Elle montre le cœur du héros, pas comme le nôtre. Il n'y a pas de différence. Et ça, c'est formidable. Pour moi, c'est un signe d'authenticité extraordinaire. Parce que à l'époque, et pas seulement qu'à l'époque, mais à l'époque, les écrits religieux, mythologiques, etc., dépeignaient toujours les gens. Voilà, même s'ils faisaient du mal, ils avaient raison, quoi. Donc, c'est quand même extraordinaire qu'on ait un livre qui soit juste et vrai. Je vous ai déjà dit, la Bible n'est pas un livre normal. C'est un livre incroyable. Et on peut la lire et la relire et retrouver toutes sortes de choses dedans. Je ne comprends pas d'ailleurs qu'un livre puisse être aussi riche que la Bible. Alors il y a des très beaux livres qui ont été écrits par des écrivains de talent, mais personne n'arrive à égaler ça, c'est incroyable. Donc voilà, je vous encourage à continuer à lire la Bible avec cette méthode. Donc vous vous rappelez quand, où, qui, comment, quoi, etc. Ensuite, on s'efforce de bien comprendre le texte au niveau de l'interprétation. Et après, on essaie d'appliquer à sa propre vie ce qui est applicable, c'est-à-dire beaucoup de choses. Voilà, donc Samuel, là maintenant, donc il est parti. Le dernier verset disait, Saül s'en alla dans sa maison et David montèrent à la forteresse. On ne sait pas exactement où se situe cette forteresse. Il y a plusieurs propositions, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais voilà, avec ses 600 hommes, il est reparti de son côté. Et puis, le chapitre 25 commence avec la mort de Samuel, on en a parlé la dernière fois. Du coup, David est encore plus en danger qu'autrefois, parce que Samuel était quand même encore un dernier rempart pour lui. Et il s'enfonce encore plus dans le désert, avec tout le côté symbolique du désert. On avait soulevé ça la dernière fois. Toujours avec ses 600 hommes, apparemment, le nombre n'a pas l'air d'augmenter. Et il va se trouver dans une région où il y a beaucoup de moutons qui paissent. Et la plupart de ces moutons et ces chèvres appartiennent à un certain Nabal. Alors c'est fou d'avoir un nom comme ça, ça veut dire fou, insensé, quand même triste, pauvre homme. Par contre, c'est très curieux, et le côté symbolique de cette histoire est très fort aussi. Sa femme s'appelle Abigail, et j'en ai parlé avec certains là, qui m'ont dit qu'on peut le traduire beaucoup plus justement que la plupart des commentaires par « la joie du père ». Au lieu du père de l'allégresse, comme souvent ils le traduisent, je pense que c'est marche à l'envers. C'est un peu comme les Anglais, ils font tout à l'envers. Ils croulent à gauche, etc. Et en grammaire aussi, hein, tout marche à l'envers. Cas possessif et tout. Et voilà, je crois qu'effectivement, si on retourne, c'est beaucoup plus clair. La joie du père. Et du coup, vous imaginez, il y a des comparaisons. J'espère que certains l'ont trouvé, pas tout le monde. Il y a des comparaisons très fortes entre Abigail et quelqu'un d'autre. Donc voilà, on a en présence David et ses hommes qui ont été au milieu de ces bergers, qui faisaient paître des centaines de moutons, etc. Et vous savez, les bandes armées de l'époque, elles se servaient. S'il y avait des troupeaux qui traînaient comme ça, dans la nature, hein, ils traînaient, donc on les ramassait, et on se servait pour manger, etc. C'était pas le cas de David. David avait une qualité de vie et d'intégrité qui était remarquable. Parce que franchement, à l'époque, quand vous n'avez rien à manger, il n'y a pas de supermarché. Hein. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire ? Eh bien, ils n'ont rien trouvé de mieux que d'aider les bergers. De les protéger, justement, des bandes de pillards qui étaient courantes à l'époque. Donc, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. Ils ont mis toute leur énergie au service des employés de M. Nabal. Pendant des mois, apparemment. Pour sauvegarder, protéger les bergers, sauvegarder les troupeaux et aider aussi, parce que c'est pas évident hein, de gérer tous ces troupeaux. Et au moment de la tonte, c'était la fête. Et c'était une fête générale, hein, on invitait les gens et c'était la coutume dans le pays. Il n'y avait pas que les lois de l'hospitalité, c'était une loi, voilà, au moment de la tonte, on invitait ses voisins et on faisait une grande fête. Et on mangeait, etc. Donc au moment de la tonte, comme il ne voyait rien venir, David va envoyer ses hommes, des jeunes hommes, chez Nabal pour dire ben, « Écoute, nous on a fait tout ce qu'on a pu pour toi, peut-être que voilà, tu pourrais faire quelque chose. » Et je crois qu'on en était là la dernière fois. Donc on va en revenir là. Est-ce qu'on n'a pas besoin de relire les premiers versets ? C'est bon, vous en souvenez ? Donc, il s'attendait à une récompense, c'est un petit peu logique, puisque c'était la coutume. Évidemment, nous, ça nous choque un petit peu, parce qu'on ne procède pas comme ça dans notre civilisation. On ne va pas voir quelqu'un pour lui dire « Dis donc, je t'ai aidé, j'attendrai un retour. » Ça ne se fait pas. Mais bon, là-bas, ça passait, d'autant plus que c'était Nabal qui avait tort. Il aurait dû de lui-même y penser. Donc, on va reprendre le texte. Donc, 25... À Samuel 25, au verset... Ouais, on va commencer quand ils arrivent chez Nabal, pour bien se refixer les choses. Donc, ils arrivent chez Nabal, et David leur a dit, « Vous le saluerez en mon nom, et vous lui parlerez ainsi. Pour la vie, que la paix soit avec toi, la paix avec ta maison, la paix avec tout ce qui t'appartient. À présent, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons rien fait de vil, rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. » Demande-les à tes jeunes gens, ils te le déclareront. Que mes jeunes gens obtiennent donc ta faveur, puisque nous venons pour un jour de fête. Donne-nous, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David, ce que tu as sous la main. Lorsque les jeunes gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David, puis ils se turent. C'est marrant qu'ils aient eu à cœur d'écrire ça. Puis ils se turent, ils attendaient une réponse. Voilà. David, vous avez remarqué qu'il fait aussi appel au témoignage des serviteurs. Toujours, hein. David est toujours branché, vous avez remarqué, les fêtes, les fêtes, les fêtes. Pas les impressions, pas les ressentis, pas les sentiments, les fêtes. Par contre, quand il prie, si vous lisez ses psaumes, là, hein, ses sentiments, ses ressentis, ça sort, hein, devant Dieu. Mais devant les hommes, il reste toujours très sur les fêtes. Il est très scientifique, très en avance pour son époque, je trouve, toujours sur les fêtes. Alors, le fait qu'ils aient demandé comme ça la récompense, ça m'a fait penser à ce verset que je cite souvent. « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. » J'ai remarqué que quand on s'attend à quelque chose de la part des humains, ben, on est souvent très déçu. C'était le cas de David, horriblement déçu. Et ça peut créer des colères, des rancunes, un désir de vengeance parfois. Alors évidemment, maintenant, on ne va pas tuer les gens avec une épée ou un revolver, mais on peut tuer avec la langue. On peut vraiment casser quelqu'un avec ce qu'on dit. Les amis, la famille, les patrons, les collègues sont susceptibles d'oublier ce qu'on a fait pour eux. Alors, dans ce cas-là, comment est-ce qu'on réagit ? Est-ce qu'on va réagir comme David ? Ou est-ce qu'on se dit, mais je l'ai fait pour le Seigneur et non pour les hommes? Alors c'est difficile. C'est difficile parce qu'on est, humain, hein, on n'est pas, voilà, des esprits. Voilà, mais est-ce qu'on est capable par moment de dire, bon voilà, si je n'ai pas de retour, ce n'est pas grave. J'ai fait ce que Dieu m'a demandé. Et puis l'inverse est vrai aussi. Je me suis posé la question parce que c'était bien en écrivant ça. Je me suis dit, oui, c'est bien joli, mais... Et nous aussi, est-ce que ça ne nous arrive pas d'oublier d'être reconnaissant envers les gens qui nous ont aidés ? Hein, c'est bien de penser d'un sens, mais il faut aussi penser dans l'autre sens. Combien de fois est-ce que moi, je n'ai pas été reconnaissante quand quelqu'un m'a aidée? Et là, on peut faire la même liste, amis, famille, patrons, collègues, voilà, les gens de l'Église. Hein, donc c'est vrai dans les deux sens. Nous, on s'attend quelquefois à des choses, on est déçus, alors on est dans l'amertume. Ah, les gens sont tous les mêmes, ils oublient ce qu'on fait pour eux, etc. Et puis je me suis posé du coup la question, mais moi, combien de fois est-ce que quelqu'un a pu penser ça de moi? Mince, ça c'est embêtant déjà. Hein. Et c'est vrai, c'est fatal. C'est fatal à un moment ou à l'autre, ça nous arrive tous. On a oublié d'être reconnaissant. Alors, je ne parle pas de cadeaux, mais quelquefois, juste des paroles encourageantes, un merci. Hein. Il y a quelque chose qui m'a... Enfin, ça vient pas seulement de moi, mes parents étaient déjà très, très à cheval là-dessus. Ils me disaient toujours, il ne faut pas considérer les choses comme un dû. Et attention à cette notion de dû. Une petite anecdote qui m'est restée, c'est marrant, il y a des choses comme ça qu'on n'oublie pas. J'avais pas encore d'enfants à l'époque, j'étais passionnée par les petits habits des bébés, je trouve ça bien, j'aimais beaucoup les bébés, je les aime toujours autant, sauf la nuit quand ils me réveillent, mais franchement j'étais passionnée par toutes ces jolies petites choses qu'on achetait pour les bébés, c'est vrai, hein, c'est sympa, voilà. Et donc il y a quelqu'un qui venait d'avoir un bébé dans l'église où j'étais, et donc je furetais pour voir les cadeaux qu'ils étaient en train de déballer. Si j'avais pu, je serais venue te voir. Je pouvais pas. Et j'étais passionnée, et alors je regarde, il y avait un truc magnifique. Oh, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est joli ce truc, mais dit-on. Bon, c'est le mot que j'utilise toujours, vous l'avez déjà entendu. Mais elle s'est ruinée, cette pauvre dame. Oh, bon, mais c'était une façon de parler, mais... Et en face, qu'est-ce que j'entends? Et ça m'est resté, hein. Oh, elle peut bien le faire. Et c'était des gens très gentils. Hein. Mais pourquoi ils ont dit ça? C'est pas un dû, c'est pas parce qu'elle avait peut-être un peu plus d'argent que la moyenne. J'en sais rien d'ailleurs, mais bon, apparemment. Pourquoi? Pourquoi répondre comme ça? Ça m'a fait mal, je dis, mais et alors? Même des gens avec beaucoup d'argent, quelquefois, ils vont pas faire quelque chose d'aussi joli. C'est lié au cœur, c'est pas lié au porte-monnaie. Voyez? Donc attention quand on considère les choses comme un dû. Bon, je n'en ai pas voulu, c'était des gens très très gentils, hein, c'est pas. Mais la réflexion m'a choquée et c'est resté dans ma tête. Ne considérons pas les choses comme un dû. Soyons toujours reconnaissants. Et nous-mêmes, et puis bon voilà, les uns envers les autres. Et combien de fois, peut-être ça vaut le coup de s'examiner soi-même, se dire combien de fois est-ce que j'ai déçu quelqu'un parce que je n'ai pas pensé à dire merci, ou pas assez, ou voilà. Bon, voilà, je vous laisse ça. Donc David réclame, curieusement. Et voilà la réponse de Nabal. Ouh, l'insensé. Il répond au serviteur de David, verset 10. Qui est David? Et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'évadent de chez leur maître. Ça me fait penser aux comédies de Molière, ça. Voilà. Il y a beaucoup de serviteurs qui s'évadent de chez leur maître. Autrement dit, pour moi, c'est un serviteur qui s'enfuit. Hein. Quantité négligeable. Et je prendrai mon pain, mon eau et la viande que j'ai débitée pour mes tondeurs et je les donnerai à des gens dont je ne sais même pas d'où ils sont. Les jeunes gens de David rebroussèrent chemin, ils n'ont rien dit. Quelle sagesse! Et ils s'en retournèrent et à leur arrivée, ils rapportèrent toutes ces paroles. Alors là, on découvre que Nabal, il connaissait David, fils d'Isaïe. Bon, faut pas exagérer. En plus, on s'aperçoit plus tard que sa femme savait très bien qui était David et que ce serait le futur roi. Donc, Nabal n'était pas... Il ne faut pas s'imaginer qu'il était innocent. Hein. Vous savez, parfois, quand on lit les textes bibliques comme ça, si on réfléchit pas, on se dit « Oh, il a été dur, David. Cet homme, il ne le connaissait pas. » Tu parles. Bien sûr qu'il le connaissait. Et puis d'abord, à l'époque, il n'y avait pas tous les moyens qu'il y a maintenant. Hein. Mais le téléphone arabe fonctionnait déjà très, très bien. Et tout le monde connaissait la réputation du gars qui avait vaincu Goliath. Non mais faire tomber, quand toute l'armée s'enfuit et qu'il y a un petit jeune qui vient et qui tue un géant, quand même, ça c'est une histoire, hein. C'est mieux que les westerns. Et on se racontait ça à la veillée le soir. Faut toujours penser à la culture de l'époque, où on se réunissait le soir, il n'y avait pas la télé, merci Seigneur, et du coup, ils se rassemblaient et ils se racontaient les choses. Et puis, quand ils n'en avaient pas assez, ils en inventaient. Eh oui, toute l'épopée de Gilgamesh et ainsi de suite. Bon, voilà. Donc, voyez, Donc les choses vraies, évidemment, elles passaient en priorité. Ouais, c'était un petit berger, hein, on dit que c'était le fils d'Isaïe, etc. Un petit bonhomme, il a même pas pu se trimballer dans l'armure de Saül, et vous rendez compte, ça devait être rigolo. Enfin, voilà, les gens racontaient. Donc ils le savaient. Ça avait fait le tour du pays. En plus, attention, rappelez-vous les exploits militaires de David, quand il était avec Saül et Jonathan. Des exploits militaires dingues. Attaquer une troupe armée, comme ça, en grimpant sur une montagne. D'ailleurs, en passant, j'ai entendu le témoignage d'un général anglais qui, à l'époque, était dans l'armée anglaise. Alors, je ne sais plus dans quelles années c'était, au moment où, où les Anglais étaient en Israël. Et il savait pas comment se débarrasser d'une troupe d'ennemis. Je ne sais pas de quel côté ils étaient. Mais en tout cas, ils étaient contre Israël. Et les Anglais ne savaient pas trop comment s'y prendre. Et ce général, qui à l'époque était moins gradé, évidemment, il avait lu sa Bible avant de dormir. Et il avait lu le texte où, justement, Jonathan était monté s'attaquer avec David, je crois. Et il a fait la même stratégie et ça a eu le même succès. Vous voyez, c'est des choses qui ont marqué le pays. Donc les gens savaient. Les marchands aussi racontaient beaucoup. Hein, quand ils partaient d'un endroit à l'autre, ils racontaient. À l'époque, c'était les épices, les soieries qui circulaient là en Israël. On racontait. Abigail, donc, savait aussi qui était David. Donc Nabal, il sait très bien qui il a affaire. Ce qui fait que ces paroles, c'est du pur mépris. C'est pas de l'ignorance. C'est du pur mépris. Il le compare à quoi ? Un esclave enfui. Non, mais c'est le futur roi d'Israël quand même. Il le sait. Sa femme le dit, donc on voit bien qu'il est au courant. Il n'en a rien à faire. Pour lui, c'est un esclave enfui. C'est de la pure provocation. Et il s'en sert comme prétexte pour refuser de l'inviter, de lui donner quoi que ce soit au moment de la fête. Mépris, arrogance, insulte, humiliation. Charmant, monsieur Nabal. Déjà, il enfreint les lois de l'hospitalité, parce qu'à l'époque, on donnait même si on ignorait d'où venaient les gens. C'était la loi du désert aussi, comme l'a fait remarquer Colette. La loi du désert, on ne s'occupe pas si quelqu'un a soif ou faim, on ne s'occupe pas si c'est un ennemi. Et il y a une très belle histoire là-dessus, c'est Laurence d'Arabie. Quand il a été recueilli à moitié mort de soif dans le désert par des Touaregs. Les Touaregs l'ont gardé dans leur tente et il a entendu des gens qui venaient pour demander sa tête. Et les Touaregs n'ont pas cédé. Il leur a dit, mais vous êtes fous. Pourquoi vous me connaissez même pas. Vous m'avez recueilli, vous m'avez sauvé la vie, mais... Quand même, vous avez vu la récompense qu'il y avait à la clé. Vous auriez pu vous acheter tout un tas de choses avec s'il y avait une grosse somme d'argent. Et les Touaregs ont dit, on ne vend pas quelqu'un avec qui on a partagé le sel et le pain. Loi du désert. Donc, c'était, vous voyez, c'était 1900, combien, Laurence d'Arabie ? Je ne suis pas très douée avec les dates. 1920 ? Ah oui, tout le monde a l'air d'accord sur 1920. Bon, ben, vous voyez, donc c'est encore récent quand même. Et ça reflète bien l'esprit des lois d'hospitalité du désert. Par ailleurs, vous avez vu que Nabal est complètement centré sur lui. Hein. J'ai bien insisté, mon pain, mon eau, tout est à lui. Bon, c'est ses serviteurs qui bossent, mais tout est à lui. Ça m'a fait penser à ce verset, c'est 1 Corinthiens 4:7. Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Lui, apparemment, il n'en a rien à faire. Pourtant, théoriquement, il devrait être croyant. Tout ce que j'ai, c'est moi, c'est à moi, c'est moi qui le fais, c'est moi qui le possède, etc. Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? C'est un verset qui, quand j'ai lu ça, j'ai dit, oh là là. Nabal est dans une logique très très personnelle, complètement charnelle, c'est normal. Il est tout à fait normal, il est centré sur lui. Donc voilà, moi, et les autres ne comptent pas. Bon, alors maintenant, ça va être la réaction de David qui va être intéressante. Alors David dit à ses hommes... Il ne perd pas une seconde. Hein. Que chacun de vous mette son épée à sa ceinture. Et ils mirent chacun leur épée à la ceinture. David aussi mit son épée. Ils insistent. Hein. Vous savez, quand il y a des insistances comme ça dans un texte, ce n'est pas le plaisir. Ce n'est pas parce qu'ils ne savaient pas quoi dire. C'est pour dire épée. Hein. Et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il n'oublie pas ses bagages. Je crois que les femmes comptèrent les bagages. Il en resta 200 près des bagages. Oui, en général, elles restaient avec les enfants et... Les tentes et les bagages, voilà. Aïe. Ensuite, on va passer tout de suite à 21-22 parce que, entre-temps, vous avez un autre texte, 21-22. David avait dit, c'est bien à tort que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert. Intéressant ce genre de réflexion. Ça vous est jamais arrivé de penser ça? Et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Combien de fois est-ce qu'on pense ça? Et alors il rentre un texte un peu difficile à traduire, donc je pense qu'il n'est pas très clair, mais en fait ce sont des imprécations. Que Dieu fasse ceci aux ennemis de David et qu'il ajoute encore cela si je laisse subsister jusqu'au matin, même le moindre de tous ceux qui appartiennent à Nabal. Oh, ça c'est dur quand même, et ses serviteurs qui avaient été si gentils. Ils avaient travaillé ensemble et tout, mais il est aveuglé par la colère. C'est David cette fois-ci qui réagit violemment. Vous vous souvenez, la dernière fois, c'était ses hommes qui avaient dit « Allez, tue Saül, tue Saül !» Il avait dit « Oh !» Cette fois-ci, c'est le contraire. Il avait résisté à la pression de ses hommes pour ne pas toucher à Saül, mais maintenant c'est lui qui entraîne ses hommes pour attaquer Nabal et ses gens. Vous savez, la Bible joue souvent sur les contrastes. Vous verrez, quand vous regardez les textes de la Bible, les contrastes, il y en a tout le temps, c'est pour faire ressortir certaines vérités. Donc quand vous voyez des contrastes comme ça, dites « Oh, oh, il y a un message !» Il entraîne maintenant ses hommes pour attaquer Nabal et ses gens. C'est, par contre, on avait remarqué la dernière fois, c'est le type même d'une réaction disproportionnée. Mais pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça? Lui qui avait résisté devant son ennemi, et Saül voulait sa mort. Nabal, il ne voulait pas sa mort. Nabal, il voulait juste rien lui donner. Mais il ne voulait pas lui faire de mal. Et là, il est prêt à tuer tous les gens, les serviteurs, etc. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Réaction disproportionnée, alors ça on va le faire au mois de mai avec la maison d'Élie, il y a une racine amère. Quand on a une réaction disproportionnée, quand un tout petit truc nous fait sauter un plomb, puis ça nous arrive à tous, hein, petite chose, et puis paf, on explose. Eh bien c'est qu'il y a quelque chose derrière, il y a une raison. On n'est pas fou, il y a une raison. Mais c'est pas toujours celle qu'on croit. Et... c'est une racine amère. C'est qu'il y a quelque chose au fond de nous, ce qu'on appelle racine amère à la maison d'Élie. Il y a quelque chose au fond de notre cœur qui ne marche pas bien, qui est blessé, qui a de l'amertume. Et il se trouve que Nabal, il a trouvé le bon bouton. Vous savez, c'est comme si David avait des boutons là, et puis il appuie juste sur une plaie, juste sur le bon bouton. Qui est David? Qui tu es, toi, David? C'est quoi ton identité? Petit gars, là? Pour qui tu te prends? Un petit serviteur qui s'enfuit? Un esclave, oui. Aucune valeur. Et pour David, c'est vrai que c'était un problème. Rappelez-vous, pour Dieu, c'était le prochain roi. Il avait été oint et choisi par Dieu, pour Samuel aussi. Pour ses hommes, c'était le chef de bande, le prochain roi. Ils espéraient en tout cas, hein, parce qu'ils ne le suivaient pas pour rien non plus. Hein. Pour beaucoup, malheureusement, c'était quand même un fuyard. Pauvre. Poursuivi par Saül. Pour d'autres, c'était le vainqueur de Goliath, c'était le vainqueur des Philistins, mais il a mal tourné. Il est avec une bande de gars, là, dans le désert. Pour certains, c'était un héros militaire qui avait fait concurrence à Saül. Rappelez-vous la chanson? Saül a tué ses 1000 et David ses 10 000. La graine de jalousie est rentrée ce jour-là. Donc, vous voyez, il était l'objet de chansons, donc il était archi connu. Dieu a promis, mais pour l'instant, David est toujours au bord de la catastrophe. Mettez-vous à sa place. Dieu avait fait des tas de promesses, il a vu l'onction royale, c'est fait fou quand même, mais il est toujours au bord de la catastrophe. Sa vie est toujours en danger. Il est mal connu, il est mal compris, il est dépendant de la générosité des gens. Alors, vous savez, les gens, pour nourrir 600 personnes, il n'a aucun pouvoir. En fait, c'est une bête traquée au fond du désert. Donc là, il a appuyé sur le bon bouton. Tu te crois roi, hein? Tu crois que Dieu t'a promis la royauté? Tu parles, t'es qu'une bête traquée, tu vaux rien. Et puis, réfléchissons aussi à ce qui s'était passé avant. Rappelez-vous ses frères, quelqu'un l'a relevé d'ailleurs. Comment il le considérait, ses frères? Le jour de l'onction royale, il n'était pas là. Ils n'ont même pas jugé bon d'inviter le petit berger. Bon, c'est vrai qu'il était peut-être très jeune, mais quand même. Il y avait un festin, parce qu'il y avait un sacrifice et tout, il consommait la bête après et tout, c'était une énorme fête. Rappelez-vous, à cette époque-là, on ne faisait pas des barbecues tous les jours. Le sacrifice, c'était le grand barbecue qui arrivait une fois de temps en temps. Donc, quand on mangeait de la viande, c'est une grande fête, on invitait les voisins, etc. Et David, on ne l'invite pas. Donc là, il y a quelque chose. Deuxième chose, quand il arrive pour ravitailler ses frères à la bataille où il a tué Goliath, vous vous souvenez comment ils l'ont accueilli ? Oh, mais dis donc, toi, pour qui tu te prends, là ? Tu es un petit vantard, un petit orgueilleux, etc. Mépris total. Bon, puis d'autres versets de la Bible tendent à nous montrer qu'ils n'étaient probablement pas de la même mère, donc il y avait une discrimination familiale déjà. Donc vous voyez, son identité était en cause à tous les niveaux. Et j'ai pensé à ce verset, ne vous lassez pas de faire le bien. Galates 6:9, je l'ai dit à un jeune pasteur il n'y a pas très longtemps. J'avais reçu ça pour lui, ne te lasse pas de faire le bien. Parce qu'il y a des moments où on se lasse. Parce qu'on ne fait jamais parfaitement, du coup on se lasse. Et David, eh ben, il est lassé. Il en a juste marre d'être bon et juste. Il en a marre. Ça sert à quoi d'être bon et juste ? Ça sert à quoi d'être gentil, de protéger les bergers, de ne pas voler de moutons, d'essayer de travailler à droite à gauche pour avoir de quoi manger et puis de quémander à droite à gauche ? Ça sert à quoi ? Ça sert à quoi d'être juste et honnête ? Ça sert à quoi de payer correctement ses impôts ? Ça sert à quoi d'être gentil avec les gens ? Ça sert à quoi d'accepter les réflexions de l'un ou de l'autre ? Ça sert à quoi ? Combien de fois est-ce que nous on dit la même chose ? Mais ça sert à quoi d'être bien ? Parce que dans ces cas-là, on pense que de toute façon, tous les autres sont pourris, il n'y a que moi de bien. Donc ça sert à quoi ? Tous les autres le font. Ça va vite dans ces cas-là. Tout le monde le fait. Donc attention, quand ces pensées-là viennent, elles viennent aussi d'une mauvaise racine dans nos cœurs. Peut-être d'autres gens disent ça de nous aussi, à un moment ou à l'autre. Oh, lui ou elle fait ça, et ça sert à quoi que moi je fasse bien ? Ne nous lassons pas de faire le bien. Le Seigneur, lui, il n'oublie pas. Et ça, c'est précieux de savoir que lui, il n'oublie pas. Et il nous récompense et il nous fera justice. Et c'est ce qui va se passer avec David. Alors, quant aux imprécations de David, là, c'est quand même pas sérieux. Hein. C'était grave, à l'époque, de maudire comme ça les gens. Hein, que l'Éternel me punisse si toute sa maison n'est pas assassinée. C'était gros quand même, hein. C'était grave. C'était des vœux insensés qu'on prononce souvent quand on est en colère. Et chaque fois que ça nous revient à l'esprit, demandons pardon à Dieu pour ces vœux insensés. Renonçons à ces vœux insensés. Rejetons-les. Ce sont des racines mauvaises qui s'installent dans notre vie. Et on en a tous fait dans des moments comme ça. Mais c'est pas juste, ça sert à quoi de faire le bien ? Il faut s'en repentir, sinon ça peut faire des blocages dans nos vies. Hein, ça, on l'a tous remarqué, ça fait des gros, gros blocages. Donc, je ne sais pas si David s'en est repenti, j'espère, j'aurais dû rechercher dans les psaumes. Il y a peut-être un endroit où il se repent de ses vœux insensés, mais je n'ai pas cherché. Alors, on va passer au verset 14 de nouveau. Un des serviteurs de Nabal va faire un rapport à Abigail, femme de Nabal. Voici que David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître, qui les a rudoyés. Moi, j'imagine la scène, Madame Nabal, là, Abigail, qui écoute. Visiblement, ce serviteur, c'est une sorte d'intendant, hein, puisqu'il a l'oreille des patrons. Et il est super dans les détails. Et pourtant, ces hommes ont été très bons pour nous. Nous n'avons subi aucun outrage. Et rien ne nous a été enlevé, tout le temps que nous avons fait route avec eux, lorsque nous étions dans la campagne. C'est là qu'on voit que c'était courant, apparemment, que les pillards viennent rôder. Hein. Ils nous ont nuit et jour servi de muraille, tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître le petit bétail. Ils nous ont servi de muraille. Ça en dit long, hein. Autrement dit, c'est eux qui prenaient les coups. Maintenant, tâche... Alors, j'aime bien comment ils traitent la patronne. Maintenant, tâche de reconnaître et de voir ce que tu as à faire. Car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue. Et lui, il y va fort là, c'est un vaurien. Alors, vaurien, c'était dans le texte original un fils de Baal. De Bélial. Ah bon, je crois que c'est Baal. C'est pas loin. Impossible de lui parler. Donc vraiment, le fils d'un dieu méchant, impossible de lui parler. Ben là, il parlait du patron, hein, entre parenthèses. C'est très surprenant, ce texte. Je trouve que ce serviteur est remarquable. De courage. De toute façon, c'était ça ou la mort. Hein. Je crois que lui, il était au pied du mur aussi. S'il suppliait pas à la patronne de faire quelque chose, c'était cuit pour lui aussi. Mais il aurait pu se dire, Bon, écoutez, moi, je suis l'intendant, hein, comme on l'a souvent remarqué dans les textes. Je suis l'intendant, moi, je me tire, puis ils verront bien ce qui arrivera. Hein. Bah oui, il aurait pu dire ça. Mais il a à cœur de sauver cette famille, il y tient, malgré la méchanceté du maître. Il pense aux autres, il pense à tous les innocents qui risquent la mort. Je trouve génial cet intendant. Il rapporte fidèlement les faits, encore une fois, pour qu'Abigail comprenne la situation d'injustice qui a provoqué la colère de David. Il explique très très bien, et en très peu de versets, hein, il explique très bien le problème. Alors on peut se demander pourquoi il va vers elle, parce que normalement, on vit à une époque, et les gens qui n'aiment pas la Bible disent « c'est une époque très misogyne, la Bible est misogyne, Dieu est misogyne ». Mais non. Il y a des livres entiers qui sont consacrés à des femmes. Esther, Ruth. Donc ceux qui n'ont jamais lu la Bible, c'est autorisé qu'ils disent ça, parce qu'ils ne l'ont jamais lu, ils peuvent dire n'importe quoi. Maintenant, ceux qui l'ont lu, ils ne devraient pas se le permettre, parce que la Bible n'est pas misogyne, Dieu n'est pas misogyne, au contraire. Et justement, des textes comme ça le prouvent. Parce que c'est vrai que c'était une époque où les femmes n'avaient pas l'importance qu'elles ont maintenant. Elles étaient loin d'avoir le statut qu'elles ont aujourd'hui. Mais il se trouve qu'on voit Dieu qui approuve les femmes qui ont fait des choses remarquables. Et c'est ça qui est étonnant dans ce texte. On voit vraiment, on sent l'approbation de Dieu, on la voit dans toute l'histoire, pour une femme qui a su tenir tête, qui a su, pour le bien, prendre des positions inhabituelles pour sa culture. Une femme qui n'était pas esclave de sa culture. Et ça, on y tient. On ne doit pas être dominé par notre culture. Des bonnes choses, d'accord, mais celles qui sont en contradiction avec la parole de Dieu, non. Ce n'est pas notre culture qui doit diriger notre vie, qu'elle soit française ou autre. C'est vraiment faire ce qui est juste et bien devant Dieu. Et Abigail a su faire ça. Et franchement, elle a été très courageuse. On va voir ça. Abigail, déjà, elle a confiance dans ce serviteur qui n'hésite pas à insulter son mari. Enfin, c'est une insulte, il ne fait que dire la vérité. Bon. C'est impossible de lui parler, elle doit en savoir quelque chose. Centrée sur lui, n'écoute personne, ça elle le savait. Et la confiance dans ce serviteur, visiblement, je pense qu'ils ont l'habitude d'arranger les choses quand il y a un danger qui menace à cause de Nabal. Je crois qu'il devait savoir qu'il pouvait s'adresser à elle. Le serviteur se confie dans la sagesse d'Abigail. Et j'aime beaucoup ce verset, « Tâche de voir ce que tu as à faire ». Alors, il y a d'autres traductions, mais j'imagine la scène. Allez, réfléchis là, il faut que tu trouves quelque chose. Hein. C'est toi la patronne. Tout va dépendre d'elle maintenant. Et nous aussi, on a quelqu'un vers qui nous tourner quand personne ne nous écoute. On a quelqu'un vers qui nous tourner. Quand une situation est désespérée, on peut aller vers Jésus. Lui aussi, il est plein de sagesse. Et lui aussi, il sait toujours quoi faire. Et apparemment, Abigail savait quoi faire. Et elle n'a pas perdu une minute. Alors, vous voyez les femmes là, ça fait du bien d'entendre ça. Abigail prit vite 200 pains, elle a dû avoir pas mal de serviteurs, hein, 2 outres de vin, 5 moutons à prêter. Remarquez au passage, je vais essayer de vous mettre sur la piste, parce que j'en ai mis certains sur la piste avant l'étude biblique. Remarquez qu'Abigail, qui s'appelle donc la joie du Père, va emmener avec elle du pain et du vin, 5 mesures de grains rôtis, 100 paquets de raisins secs et 200 de figues sèches. On a le menu de l'époque. Elle est mise sur des ânes et dit à ses jeunes gens, « Passez devant moi, je vous suis. » Et elle ne dit rien à son mari. La Bible encourage la révolte. Monter sur un âne. La joie du Père, le pain, le vin, monter sur un âne. Bon, ça vous dit rien? Elle descendait par un versant de la montagne et voici que David et ses hommes descendaient en face d'elle en sorte qu'elle les rencontra. Ah! Alors, on va sauter un peu le passage qu'on a lu tout à l'heure pour reprendre. Lorsqu'Abigail aperçut David, elle descendit vite de l'âne, tomba et se prosterna en présence de David, la face contre terre. Puis se jetant à ses pieds, elle dit « À moi la faute, mon Seigneur, permets à ta servante de parler à tes oreilles, écoute les paroles de ta servante. » Abigail prend sur elle la faute. Ça vous dit rien, ça? Elle se jette à ses pieds pour le supplier d'épargner sa famille. Il y a une comparaison qui s'impose, la joie du Père. Elle est ce qu'on appelle en théologie un type de Jésus. Et c'est incroyable que ce texte biblique nous parle d'un type de Jésus et que ce soit une femme. Et on va retrouver aussi quelques points de ressemblance avec David et Saül. Et là, je ne sais pas, mais je pense que David, il a dû quand même le sentir. Il envoie les cadeaux devant. Ça, ok, ça nous fait penser à Jacob et Ésaü. Mais c'est l'attitude de respect. Et se prosterne comme lui avait cette attitude de respect devant Saül. Ça a dû lui parler. David est bien obligé de comprendre le sens de cette salutation-là. Parce que 14 fois en anglais, elle dit « My Lord », alors je ne sais pas, je n'ai pas compté en français, mais ça doit être pareil. 14 fois, elle lui dit « Mon Seigneur ». Et marque bien son respect pour le futur roi. L'attitude de supplication, ça fait évidemment penser, dans l'Ancien Testament, chaque fois que quelqu'un demandait grâce, il avait cette attitude à genoux, il embrassait même les genoux de celui à qui il demandait grâce. Et elle va ouvertement renier son mari. C'est pas beau, hein? Elle va se dissocier de lui, non pas parce que son mari, mais parce qu'il est insensé. Et insensé, ça veut dire qu'il ne respecte pas Dieu. Insensé, c'est l'insensé, c'est celui qui dit, rappelez-vous la définition dans la Bible, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. On voit bien que Nabal, il n'en a rien à faire. Dieu, ses lois, c'est moi. Il a un Dieu, oui, c'est lui son Dieu. Donc, elle renie l'insensé dans son mari. Je ne pense pas qu'elle renie son mari en tant que mari, mais ce côté insensé. Et elle se distingue tout de suite en disant « Moi, je n'étais pas présente quand c'est arrivé. » Écoutez la suite. « Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce vaurien de Nabal. » Bon. « Car il est comme son nom, il s'appelle Nabal. » Il est insensé. « Il y a chez lui de l'insanité ou de la folie, suivant les versions. » Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les jeunes gens que mon Seigneur a envoyés. Elle se dissocie totalement de la folie de son mari. Alors on pourrait dire, ça c'est pas correct. Mais je pense que c'est clair que Dieu ne nous demande pas de nous soumettre à des gens qui sont complètement hostiles à Dieu. Qui sont hostiles à tout ce qui est bon et juste. Qui ne respectent aucune loi. La Bible, c'est pas de la guimauve. Et c'est ça qui est quelquefois un petit peu difficile. La Bible dit très clairement, soumettez-vous aux autorités, mais dans la mesure où ils respectent les lois de Dieu. Combien de chrétiens aujourd'hui sont tués, emprisonnés, torturés dans plusieurs pays du monde, aujourd'hui et de plus en plus, parce que justement, ils respectent les autorités, mais ils n'accepteront pas de faire des choses illégales, injustes et de se détourner de Dieu. Et ils le payent de leur vie. C'est triste, mais c'est malheureusement vrai. Donc, il faut savoir refuser ce qui est injuste. Alors, on va continuer la lecture. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que tu es vivant, c'est l'Éternel... Ah, j'aime cette phrase. C'est l'Éternel qui t'a empêché d'en arriver au crime et d'assurer toi-même ton propre salut. J'aime bien le toi-même. Que tes ennemis, que ceux qui te veulent du mal, qui veulent du mal à mon Seigneur, soient comme Nabal. Maintenant que le cadeau que ta servante apporte à mon Seigneur soit distribué aux jeunes gens qui marchent à ta suite. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera certainement à mon Seigneur une maison stable, puisque mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel. Qu'on ne trouve donc jamais le mal en toi. Il était dans le mal, là, en se venger lui-même. Si un homme se dresse, te poursuit et en veut à ta vie, on sait qu'il y en a un, l'âme de mon Seigneur sera gardée à l'abri parmi les vivants auprès de l'Éternel, ton Dieu. Mais l'âme de tes ennemis, ah là là, elle est coquine, Abigail, il la lancera au loin comme avec une fronde. Eh, oui. Lorsque l'Éternel, elle savait aussi où étaient les bons boutons, elle, hein. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a promis et qu'il t'aura établi, conducteur d'Israël, mon Seigneur n'aura ni remords, ni mauvaise conscience. Elle pense à ses racines. Il n'aura ni remords ni mauvaise conscience d'avoir répandu le sang inutilement et d'avoir voulu assurer lui-même son salut. Lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, tu te souviendras de ta servante. Elle termine par elle. Waouh ! Elle est visiblement sûre que Dieu va châtier Nabal parce qu'il a eu une attitude ignoble. Mais la vengeance est à l'Éternel, elle ne touchera pas à son mari. Elle donne la nourriture à David pour ses gens. Autrement dit, elle lui accorde ce qu'il a demandé. Elle répond à sa prière. Voilà. Elle lui rappelle son rôle et son identité. Elle va lui rappeler son rôle et son identité. Elle ne va pas appuyer sur le mauvais bouton. Elle lui rappelle les promesses de Dieu à son égard. Vous avez remarqué ? Et c'est la cause du pardon. Et elle insiste sur le fait que c'est ça qui doit l'aider à demander pardon. À pardonner à ces gens. Pardonne la faute. Elle prend la faute sur elle et elle lui dit pardonne la faute. C'est vrai qu'elle nous fait penser à Jésus. Elle lui dit l'Éternel te fera une maison stable. Parce que tu soutiens les guerres de l'Éternel. Autrement dit, tu es du bon côté. Qu'on ne trouve donc pas le mal en toi. Il te gardera en vie face à tes ennemis. Il rejettera tes ennemis comme avec une fronde. Alors évidemment, elle fait allusion, hein, c'est pas innocent, à la fronde avec laquelle il a vaincu Goliath. Là aussi, elle pousse le bon bouton, donc. Mais c'est une bonne racine, là, hein, de victoire, de dépendance de Dieu. C'est une bonne chose. Elle connaît visiblement l'histoire de David. Nabal devait la connaître aussi. Ensuite, elle lui rappelle les promesses, le bien que Dieu lui a promis. Tu seras établi conducteur d'Israël. Et elle insiste sur un point, tu n'auras ni remords, ni mauvaise conscience de t'être vengé toi-même. Tu te souviendras de m'avoir écouté. Alors moi, j'aime bien. Qu'est-ce qu'on peut retenir de la façon de procéder d'Abigail? On va terminer là-dessus parce que je pense que c'est extrêmement précieux. Est-ce que 3000 ans après, on peut se servir de ce qu'elle dit? Oui. Je pense qu'on peut retenir quelque chose quand on essaie d'empêcher quelqu'un, frère ou sœur, famille, dans l'église ou ailleurs, quand on essaie d'empêcher quelqu'un de faire le mal qu'il a prévu de faire. Alors, il y a plusieurs méthodes. Il y a la méthode radicale, où on dispute les gens sauvagement. On lui fait peur. Ah, t'iras en enfer. Bon, mais la méthode d'Abigail, elle est super. D'abord, elle respecte la personne. Vous avez remarqué, elle respecte. Elle s'incline, elle a du respect. Pourtant, il a bien prévu de tuer toute sa famille, ses serviteurs et tout. Mais elle reste dans le respect. Ensuite, c'est avec humilité qu'elle va demander son écoute. « Et maintenant, tu m'écoutes !» Non, écoute-moi. J'aime beaucoup cette attitude. On l'avait déjà remarqué avec Saül et David. Hein. L'écoute, elle est demandée, elle est suppliée avec humilité. C'est pas « tu m'écoutes ». Et puis, elle se dissocie complètement des gens qui jugent et qui condamnent. Autrement dit, je ne suis pas du côté de ceux qui vont te juger et te condamner. Ça, c'est important. Et ça, je crois que ça correspond à ce qu'on fait avec la maison d'Élie. On ne se met pas du côté des gens qui jugent et te condamnent. Jésus ne vient pas pour juger et condamner. Il vient pour sauver, pour délivrer, pour aider, pardonner. Par contre, elle ne va pas hésiter à replacer David devant son Dieu et devant ses responsabilités. Ce n'est pas parce qu'on est gentil, qu'on ne condamne pas, qu'on respecte, qu'on demande l'écoute avec humilité, que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et c'est de la guimauve. Elle n'est vraiment pas guimauve, Abigail. Hein. Elle lui dit carrément, mais attention, tu combats les combats de l'Éternel, mais qu'on ne trouve pas le mal en toi. Tu vas régner. Tu ne veux pas avoir des remords comme ça, d'avoir tué des innocents, d'avoir assuré ta vengeance toi-même. Mais qu'est-ce que c'est? Elle est claire, elle replace la personne devant Dieu et devant ses responsabilités. Je crois que c'est ça qu'on a à faire. Elle ouvre la porte pour qu'il sorte de son esprit de vengeance. C'est ça qui est formidable. C'est comme si elle lui ouvrait la porte. Allez, tu sors de cet esprit de vengeance. C'est fini la vengeance. Tu sors de là. Tu vaux mieux que ça. Elle assure que Dieu, elle rassure. Mais Dieu s'occupe de toi, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Dieu prend soin de toi. Rassurez les gens. Vous voyez, là, on est loin de la condamnation. Et quoi, tu as projeté de faire du mal, espèce de monstre, tu vas aller en enfer? Non, on est complètement dans l'amour et la fermeté. Elle lui rappelle les promesses de Dieu. son rôle et son identité en tant que personne. Ça, elle est claire, elle, hein ? Tu vas régner, etc. Relisez le texte, c'est merveilleux. Et puis, elle l'exhorte au pardon. Et moi, ce que j'aime, c'est le pourquoi. Je me suis attardée là-dessus. Quand on dit à quelqu'un, mais tu sais, il faut pardonner. Alors bon, on a toutes sortes de raisons de pardonner, parce que Dieu l'a dit, parce qu'il faut le faire, parce que, voilà, parce que c'est mal. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais regardez, j'ai fait la liste. Pourquoi elle lui dit qu'il faut pardonner ? Parce que Dieu a des promesses pour toi. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu as combattu les batailles de l'Éternel. Parce que tu es sous sa protection. Tu n'as pas désobéi jusqu'ici. Tu ne veux pas vivre avec des regrets. C'est beau quand même. Tu ne veux pas vivre avec des regrets. Tu es le roi en attente. Ça vaut le coup de pardonner quand même. C'est un bon exercice pour un futur roi. David ne devait pas permettre, j'ai beaucoup aimé cette phrase, ne devait pas permettre à un Saül meurtrier, ni à un Nabal exécrable, de le faire dévier du droit chemin et de gâcher l'œuvre de Dieu dans sa vie. Donc dire à quelqu'un, écoute, ne fais pas le mal, ne désobéis pas à Dieu, ne pêche pas. Pour toutes ces raisons, Dieu a des promesses pour toi, tu n'es pas n'importe qui, tu es sous sa protection. Jusqu'ici, tu t'es bien conduit, tu ne veux pas vivre avec des regrets. Oui, c'était quand même extraordinaire. Et quand vous vous préparez à faire quelque chose de mal, c'est agréable d'entendre ça. Ça aide, plus que de dire, tu vas aller en enfer. Il ne doit pas se venger lui-même sur Saül, ni sur Nabal l'insensé, ni l'un ni l'autre. Parce que Saül, encore, bon, c'était le roi, il a vu l'onction royale. Mais Nabal, le fou. Non, mais alors là, je peux y aller. Non, on ne se venge pas soi-même, que ce soit sur le dernier des derniers ou le premier, le roi. Et voilà les bonnes motivations. Alors, bien sûr, rapidement, la réaction de David. Déjà, pas de déni. Il reconnaît avec humilité et simplicité que c'est Dieu qui l'a envoyé. Alors ça, il fallait le faire. Je trouve que c'est bien de sa part. Verset 32. Il dit à Abigail, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Ah, il a compris, il s'est tout de suite replacé devant Dieu. Tout à l'heure, c'était, waouh, imprécation. « Qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre ?» Il reconnaît tout de suite, oui, c'est Dieu qui t'a envoyé. Pourquoi ? Parce qu'elle a utilisé les arguments de Dieu, pas les arguments de la chair, pas la dureté, pas la menace, mais les arguments du Seigneur. Ce sont les arguments de Dieu. Qu'est-ce que dit la Bible ? C'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Ce n'est pas sa dureté, ce n'est pas ses menaces, c'est la bonté de Dieu. « Béni soit ton bon sens !» Voyez-vous, il y a des femmes qui ont du bon sens, et en général, elles sont du bon sens. « Toi qui m'as empêché en ce jour d'en arriver au crime et d'assurer moi-même mon salut. » Il a tout compris, David. Il n'a pas fait la sourde oreille. Il a tout de suite pigé où elle allait. « C'est Dieu qui t'a envoyé. Tu as du bon sens. Tu m'as empêché d'aller jusqu'au crime et d'assurer moi-même mon salut. » L'Éternel, le Dieu d'Israël est vivant, c'est lui qui m'a empêché de te faire du mal. Donc, il passe au-dessus d'Abigail maintenant. Bien sûr, il lui dit merci, mais c'est Dieu, c'est lui qui m'a empêché de te faire du mal. Si tu n'étais pas venu au-devant de moi, d'ici à la lumière du matin, il ne serait pas resté le moindre de ceux de Nabal. Il a pris donc les cadeaux, il lui dit « Monte en paix dans ta maison, j'ai écouté ta voix et je l'ai favorablement accueilli. » Voilà, on va s'arrêter là. Je pense qu'on pourra reprendre peut-être l'année prochaine. Je ne sais pas si j'aurai le temps de finir cette année, mais on verra. Mais j'avais un petit point important sur lequel je voulais terminer. Souvent, André vous parle de dualisme et de trialectique. Et on se dit, comment est-ce que ça va s'appliquer ? Ben là, je vois là que c'est un très bon exemple. Quand je travaillais là-dessus, je dis, voilà, un bon exemple. Si on a une mentalité dualiste sur ce texte-là, on dit... Il y a les bons et il y a les mauvais. Alors, Nabal, c'est le méchant. David, c'est le bon. OK ? Alors, il peut y aller, David. Il faut qu'il fonce. Ils sont là face à face. Il n'y a pas d'autre solution. Le trialisme ou la trialectique, on va dire, OK, il y a deux personnes en présence. Nabal est franchement mauvais. Mais David, il est mal en point. Et il a besoin d'une tierce personne pour le raisonner. Pour changer. Et vous savez, souvent, quand on prend les choses comme ça, de front, le bien, le mal, j'ai raison, t'as tort. Le dualisme, c'est mortel. C'est vrai dans la vie de tous les jours, quand on prend les choses comme ça. Il y a les bons, il y a les mauvais, j'ai raison, il a tort, ainsi de suite. Ça va pas. Et là, pour une fois, le bon, il avait tort. Vous voyez, ça ne marche pas très bien. Le mauvais, il était effectivement mauvais. Et il fallait une troisième personne qui a réussi à ramener David dans la voie droite. Et souvent dans la vie, c'est comme ça. On ne peut pas considérer noir et blanc, bon, mauvais, etc. C'est la confrontation, c'est le conflit. Et avec le Seigneur, pourquoi on parle de Trinité ? Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est une Trinité, c'est plus complet. Hein. Pour un trépied, il faut trois pieds. Ça tient. Deux, ça ne tient pas. Voilà. Donc, je pense que ce n'est pas un très bon exemple, mais bon. Donc, voyez l'importance de considérer, de prendre une situation d'ensemble et d'avoir une approche, justement, trialectique, de voir les trois. Il est bon, mais il a besoin du point de vue d'Abigaël. Nabal est mauvais, il est fou, mais c'est à Dieu de s'en occuper. Voyez, à chaque fois. David, Nabal, Dieu. David, Nabal, Abigaël. La Bible demande de la méditation et de la sagesse. Et on ne peut pas tout simplifier en bon, mauvais. Ce n'est pas le western. Ce n'est pas les bons, les méchants. Soyons vraiment dans cet esprit de sagesse. On ne peut pas opposer les choses. Et on ne peut pas non plus... Il faut aussi se garder, quand on prend un texte comme celui-là, dire voilà, Dieu justifie les femmes, maintenant les femmes peuvent faire ce qu'elles veulent. Ce n'est pas le MLF non plus, mais elles ont leur place dans la sagesse du Seigneur.
On a terminé sur des westerns. Les bons, les mauvais, les méchants. Non, c'est un peu plus compliqué que ça. Et je voudrais lire ce verset dans 1 Pierre chapitre 3, verset 15, qui s'applique bien à la conclusion de ce message. « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et crainte, en ayant une bonne conscience. » Afin que là même où l'on vous calomnie, ceux qui diffament votre bonne conduite en Christ soient confondus. Voyez-vous la sagesse d'Abigaël qui a réussi bien, à renverser les choses. Ce temps, ce n'était pas gagné d'avance. Hein. David, pour une fois, et, voilà, il était décidé de passer à l'action. Eh bien, les choses se sont renversées. Et nous devons être des instruments de paix. Et je pense aussi aux baptisés, ceux qui sont là. Je ne sais pas si tous les baptisés sont là. Non, il y en a qui manquent. Mais l'apôtre Pierre aussi dit que le baptême, c'est laver nos consciences, avoir une bonne conscience. Et ce n'est pas simplement au moment du baptême qu'il faut laver sa conscience, mais c'est jour après jour que notre conscience doit être lavée pour que nous ne soyons pas sous le coup du jugement. Parce qu'à chaque fois que notre conscience nous condamne, eh bien, c'est une bonne chose si nous l'écoutons, mais si nous ne l'écoutons pas, il ne va plus parler. Et après, nous pourrons faire le mal sans que la conscience nous reprenne. Et le Seigneur nous a placés dans une disposition, il veut renouveler notre conscience du mal pour que nous soyons sensibles à sa voix et au bien que nous devons faire jour après jour.